Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Ta parole dit que tu cherches de vrais adorateurs qui t'adoreront en esprit.
Quand je lis les Philippiens, quand je lis toute l'histoire de Paul, je suis étonné de tout ce qu'il a pu faire et comment il a pu évangéliser tout le bassin méditerranéen. Et pourtant, à un moment donné, il écrira dans Romains 8, 38, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Waouh ! Pour écrire ça, faut l'avoir vécu. Faut l'avoir vécu. Paul l'avait vécu. Il avait vécu les difficultés, mais il pouvait écrire « J'ai l'assurance que je suis aimé et que rien ne me séparera de son amour. Aucune difficulté ne pourra me séparer de son amour. » Et voyez-vous, dans toutes les difficultés que moi j'ai pu rencontrer dans ma vie, il y a une chose qui est restée. Une chose qui est restée. J'ai l'assurance qu'il m'aime. Si c'est là pour le témoigner, j'ai l'assurance qu'il m'aime. Pas comme moi j'imagine, mais il m'aime. Quand on regarde la vie à Jésus, c'est pareil. Il avait l'assurance que le Père l'aimait. Il est allé jusqu'au bout. Il avait cette assurance. Alors pourquoi tant d'abandon autour du chemin? Jésus, lui, n'a pas abandonné. Paul n'a pas abandonné. Il y a une attitude à l'intérieur du cœur qui est toute particulière. Il y a une attitude à l'intérieur du cœur de Jésus que j'aimerais que ce soir on puisse toucher du doigt. Il y avait quelque chose à l'intérieur du cœur de Jésus qui fait qu'il réfléchissait différemment, qu'il agissait différemment, que malgré les difficultés qu'il a rencontrées, il a été jusqu'au bout. Et il pouvait dire au travers de Paul, « J'ai l'assurance que rien de ce que je vais rencontrer ne me séparera de son amour. » Est-ce qu'on est capable de dire ça nous-mêmes? Nous avons à notre disposition tout un tas d'outils. Nous avons la louange, la prière, l'intercession, l'adoration, la lecture de la parole, la fréquentation des frères et sœurs. Mais il y a une attitude de cœur qui va changer les choses. Vous savez, on peut faire de l'humanitaire, et il y a des gens qui font de l'humanitaire dans le monde qui le font très très bien, mais l'attitude de cœur est différente. On peut voir exactement le même résultat, mais la différence, elle est dans l'attitude du cœur. Croyez cela? Eh bien, ce soir, on va essayer de toucher quelque chose de profond. Jésus, un jour, posera cette question. Hein, il était en territoire de Césarée, de Philippe. Et puis, il demande à ses disciples, vous savez, Jésus, il est là, il les surprenait toujours un petit peu, là. Tiens, je vais leur poser une colle. Il y a tout le groupe des 12, là. Tiens, je vais leur poser une petite colle. Allons-y gaiement. Et il leur dit, qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Alors là, vous savez, ils n'étaient pas meilleurs, les disciples. Hein. Donc, au début, personne ne répond. Je ne sais jamais, il y a peut-être une colle là derrière, surtout qu'ils s'étaient peut-être déjà fait piéger. Alors, personne ne répond, et puis, au bout d'un moment, il y en a un qui se lance. Il y en a un qui disent, tu es Jean-Baptiste. Il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste. Ils ne se mouillent pas trop, hein. Il y en a qui disent. Hein. Comme ça, moi, je ne me mouille pas, c'est les autres qui parlent. Il y en a qui disent que tu es Élie. Il y en a qui disent que tu es Jérémie, un prophète. Alors, Jésus, il a bien entendu leur réponse, il a vu comment il avait répondu, alors il va être un tout petit peu plus précis. Il va leur dire, mais vous, là, vous, mes disciples qui êtes avec moi, là, mais qui dites-vous que je suis? Aïe, il va falloir se mouiller, là. Et là, je suis sûr, il y a eu un blanc, parce qu'ils n'étaient pas meilleurs que nous. Hein. Vous savez, comme dans la classe, vous posez une question, il n'y en a pas un qui a le droit pour répondre. Et au bout d'un moment, il y en a un qui se lance, toujours le même, hein, Pierre, il jette à l'eau, on y va. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, reprenant la parole, lui dira, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Qui dites-vous que je suis? C'est intéressant cette question, parce qu'elle amène une recherche d'identité. Hein, on est dans l'identité nationale actuellement là. Hein. Et cette réponse nous amène souvent par, si je vous pose la question, mais qui es-tu? Que fais-tu? Souvent ça va être les gens vont répondre par ce qu'ils font, par la fonction qu'ils ont. Ou alors par un nom, tout simplement. Ou même par une position familiale ou sociale. Mais Jésus, lui, il n'a pas répondu avec sa fonction. Il n'a pas répondu avec son nom. Il a répondu qu'il était le Fils du Dieu vivant. Son identité profonde, ce qui faisait Jésus, ce qui était la nature même de Jésus, c'est qu'il était d'abord le Fils du Dieu vivant. Voyez-vous, si je pose mon identité sur ce que je suis ou ce que je fais, le jour où je perds mon travail, qu'est-ce qui me reste? Si je pose mon identité sur mon époux, mon épouse, mon conjoint, ma conjointe, qu'est-ce qui me reste? Mais si je pose mon identité dans le fait que je suis le Fils du Dieu vivant, ça, c'est éternel. Amen. À ce moment-là, tu poses ton identité dans quelque chose d'éternel qui ne s'en ira jamais. Qui ne peut que grandir dans la relation. Qui ne peut que aller en profondeur. Jésus n'essaye pas d'être quelqu'un vis-à-vis des hommes. Il rebondit pas en disant, moi je suis l'apôtre. Moi je suis le prophète. Moi je suis le roi. Non. Il dit, moi, je suis le Fils du Dieu vivant. Le Fils. Voilà l'attitude, la profondeur particulière qu'avait Jésus. Avant d'être une fonction, nous sommes des fils. Et tout macho que vous pouvez être, ou tout féministe que vous pouvez être, l'identité la plus haute que nous puissions avoir, c'est celle d'être fils et fille de Dieu. Toute autre identité est plus petite que celle-là. Toute autre identité. Si tu poses ton identité dans autre chose, tu diminues l'identité que Dieu t'a donnée. C'est sûr. C'est sûr. J'aime cette parole qui est dans Romains 8:39 qui dit « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des apôtres de Dieu. » C'est pas ça. Je vais reprendre alors. La révélation des prophètes de Dieu. Non? C'est quoi alors? C'est la révélation des fils de Dieu. Dieu n'attend pas les apôtres. Le monde n'attend pas les apôtres. La création n'attend pas les apôtres. La création, elle attend une attitude de cœur, une révélation des fils de Dieu, de ceux qui reconnaissent le Père. Qui ont une communion avec Dieu comme un père, pas quelqu'un qui leur ordonne des choses, il y a qu'à faire, il y a qu'à ci, il y a qu'à là. Non, qui ont une communion avec lui. On a parlé de la communion, on a parlé de cette prière, de ceux qui se tiennent à la brèche. Mais comment se tenir à la brèche? Si on te l'impose, tu le feras pas. Mon ami, j'ai une grande déception pour toi. Si tu te l'imposes et si on te l'impose, tu ne tiendras pas. Mais si tu le réalises, parce que tu es le fils, parce que tu as une attitude de fils, parce que tu regardes au Père et que tu es un fils, et que tu aimes tellement ton Père, alors, là, tu le feras. Là, tu le feras. Il y a une attitude particulière. Il y a quelque chose à saisir. J'aimerais dire aussi que Jésus ne fait pas de favoris. Qui que tu sois ici, tu as la chance de pouvoir être connecté à lui. Tu es héritier de sa promesse. Tu peux voir ça dans 1 Pierre 1:17 et Galates 3:16. Alors je vais revenir un petit peu à Jésus. Maintenant qu'on a vu comment il s'était dessiné au niveau de l'identité, il a dit qu'il était fils. Si on est fils, qu'il avait une attitude de fils. C'est qu'il y a père. Sinon, il n'y a pas fils. On est d'accord. Et Jésus a appelé trois personnes comme son père. Ah. Intéressant. Tout le monde cherche, là. Qui c'est qu'il a pu appeler père? Alors, vous pouvez le marquer sur un petit bout de papier. Vous verrez si vous avez juste à la fin. Je ramasse les copies. Jésus a appelé trois personnes comme son père. Jésus a d'abord été le fils de Joseph. Il a accepté d'être appelé le fils de son père Joseph. Vous voyez ça dans Luc 2, 43 à 51. On va juste prendre un tout petit morceau. Lorsque, vous savez, son père et sa mère étaient allés à Jérusalem, et puis, à un moment donné, ils sont rentrés, ils discutaient, tout ça, etc. Trois jours plus tard, ils regardent derrière. Zut, il est où? J'ai perdu mon fils. Ça m'est jamais arrivé, hein, les enfants. Vous avez de la chance, vous voyez, Jésus, ça leur est arrivé. Au bout de trois jours, où est mon fils? Et puis, il le retrouve. Et puis là, la maman, elle arrive, elle dit, voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Quand même, un petit peu. Moi aussi, ça m'aurait angoissé. Il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Jésus, c'est la parole de Dieu. Et dans la parole, il a accepté d'être appelé le fils de son père Joseph. Dans Jean 6, 42, c'est écrit encore. Il leur était soumis, il est dit. Jésus, qui avait un appel bien au-delà de ce que ses parents pouvaient imaginer ou penser, a accepté d'être soumis à son père physique. Il a accepté cela. Il a accepté de se soumettre à eux en les respectant, même dans leurs erreurs éducatives. Parce que si Jésus était parfait, ses parents n'étaient pas. Et il a accepté d'être fils de parents qui n'étaient pas parfaits. Vous savez, on ne choisit pas son père physique. Non, ça vient comme ça. On ne choisit pas. Et pourtant, il y a de grandes bénédictions, une grande bénédiction à les honorer. Honore ton père et ta mère, te dit la parole. Hein, c'est le premier commandement qui a une promesse derrière. Et Jésus a accepté ce commandement et il l'a réalisé. Dans Marc, au chapitre 7 et au verset 10, on voit que les pharisiens, vous saviez, ce qui les intéressait, c'était de réussir à détourner un petit peu la parole selon ce qui les arrangeait. Et alors là, ils avaient trouvé un super truc, c'est que celui qui promettait de servir, on va dire, d'une quelconque manière, Dieu, à ce moment-là, le fait qu'ils doivent honorer son père et sa mère, c'était déclaré corban. C'est-à-dire qu'il n'était pas obligé de le faire. C'était super. Sauf que c'était pas du tout ce que Dieu avait dit dans sa parole. Et là, Jésus va leur dire, Moïse a dit, honore ton père et ta mère, celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous vous dites, si un homme a dit à son père ou à sa mère ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne laisserez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu, par vos traditions. On ne peut pas échapper à ça. Quel que soit le père que tu as, quelle que soit la mère que tu as, tu ne peux pas échapper à ça. C'est la parole de Dieu. Honore ton père et ta mère. Et Jésus a accepté cela. Il a été jusqu'au bout là-dedans. Vous voyez, quand il était à la croix, il a encore confié sa mère, parce que son père, on pense qu'il était décédé à ce moment-là. Il a accepté de confier sa mère à un de ses apôtres. Il s'en est occupé jusqu'au bout de la croix. C'est seulement après qu'il pourra dire, j'ai tout accompli, j'ai été jusqu'au bout. Et toi, où en es-tu dans ta relation avec ton père ou ta mère? Y a-t-il quelque chose qui te bloque? Est-ce que ton père a été abusif? Est-ce que ton père a été absent? Est-ce que ton père n'a pas pris soin de toi? Est-ce que ta mère a été t'as largué, t'as laissé tomber. Où en es-tu de la relation d'amour que tu aurais dû créer, du respect que tu devrais avoir avec eux? Vous savez, ma mère, elle m'a renié 3 ou 4 fois au moins dans ma vie. Et je l'aime. Je la respecte. Et je l'honore. Et je continue avec elle. Et elle-même, je le sais. Alléluia. Notre vie est comme un arbre. C'est intéressant, ça. J'ai beau être un adulte, si j'ai eu un conflit avec mes parents, ça a marqué mes anneaux. Vous voyez ce que je veux dire? Un arbre, si vous le coupez, vous voyez tous les anneaux de croissance. Chaque année, il y a un anneau de plus. Et lorsque l'arbre a subi la sécheresse, qu'est-ce qui se passe? L'anneau est plus fin. Si vous le coupez, vous pouvez dire, oh là, il y a une grosse sécheresse à cette époque-là. On peut remonter le temps avec les cercles d'un arbre. Et bien vous voyez, quand vous recevez les choses, quand vous passez de la 4e à la 5e année, en fait, vous n'éliminez pas la 4e année. Vous passez de la 4e à la 5e, mais vous n'éliminez pas les difficultés que vous avez rencontrées à la 4e. Il n'y a que Dieu qui peut guérir les blessures. Il n'y a que Dieu qui peut intervenir là où, quelque part, on a été déformé, abîmé. Et ce soir, c'est un nouveau départ. Tu peux faire comme Jésus, te dire, moi aussi, je veux avoir un cœur de fils et de fille vis-à-vis de mes parents. Je veux arrêter de les reléguer, je veux arrêter de les rejeter, je veux arrêter d'être en opposition avec eux. Je veux les honorer. Ça ne veut pas dire je vais faire tout ce qu'ils me demandent. Non, je vais les honorer. Les honorer. Alléluia. Waouh. Ça, c'est déjà un bon programme. Dieu veut toucher toutes les blessures provoquées par les pères et les mères, et il veut nous rencontrer dans notre besoin d'amour. Et vous savez, si je suis pas capable d'aimer mes parents, si je suis pas capable d'avoir un cœur de fils vis-à-vis de mes parents, c'est qu'il y a encore des blocages qui sont là. Il y a encore des blessures que Dieu veut régler. Parce que c'est cet amour, quand il va pouvoir se déverser, qu'on va pouvoir passer à d'autres étapes à l'intérieur de nos vies. La deuxième personne de qui Jésus a été le fils. Jésus a été le fils de son Père céleste. Amen. Ça, c'est une nouveauté, hein. Waouh. Je vous invite à, pour ceux qui étaient au week-end rencontre, à prendre la cassette sur la révélation du Père. Mais c'est ainsi qu'il s'est proclamé tout le long de son ministère. Alors on pourrait prendre des passages par dizaines. Je retiendrai juste celui-ci de la Samaritaine dans Jean chapitre 4 où il dira quelque chose de profond. Vous savez que la nourriture qu'on prend, c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous remplit, c'est ce qui nous permet de vivre, c'est ce qui nous permet vraiment d'exhaler un parfum particulier. Et la nourriture spirituelle de Jésus, c'était de faire la volonté de son Père. Donc on voit qu'il avait une attitude de cœur qui était d'être le fils de son Père, et on voit qu'il avait une nourriture particulière qui était de faire la volonté de son Père. C'était pour lui très profond cette relation qu'il avait avec son Père. Quelque chose d'énorme, quelque chose de grand. Et au travers de ça, nous-mêmes, Jésus nous a, au travers de son sacrifice, nous a donné de pouvoir naître avec lui, au travers de lui, comme des fils et des filles du Père. Nous sommes nés du Père, dit la parole de Dieu. Nous transportons en nous son ADN. Alléluia. L'ADN de Dieu est en nous par son esprit. Au moment où nous avons accepté Jésus dans notre vie, nous transportons l'ADN de Jésus en nous. L'ADN du Père. Waouh! Est-ce que ça veut dire que nos vies sont totalement transformées instantanément? Non! Mais ça veut dire que nous avons ce qu'il faut pour pouvoir réaliser ce que Jésus était vis-à-vis de son Père. Regardez la communion qu'il avait avec lui. Vous avez soif de ça ou pas? Vous avez soif de ça ou pas? Moi, quand je lis que Abraham pouvait entendre du moins, de la part de Jésus, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Waouh ! Quelle relation ! Mes amis, mais moi j'ai soif de ça ! J'ai soif d'avoir une communion avec lui. J'ai soif de le connaître plus profondément comme mon père. Pas seulement l'entendre dire, pas seulement en avoir une connaissance intellectuelle, mais je veux en avoir la révélation. Je veux avoir ce cœur de fils vis-à-vis de lui. Je veux qu'il m'accepte plus profondément encore comme son fils. Je veux entendre sa voix. Je veux avoir des moments d'intimité avec lui. Je veux le connaître. Alléluia. Bien souvent, on est effrayé à l'idée d'être petit, pas important, insignifiant. On veut tous être des héros. On veut tous être quelqu'un de grand, surtout nous les hommes. On veut pouvoir protéger nos épouses, alors elles ont des bébés, alors faut les protéger. Mais lui, il nous a invités à être des petits enfants. Regardez à l'intérieur de la parole de Dieu, il dit, dans Matthieu 11, 25, Jésus prend la parole et il dit, « Je te loue, Père !» Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché les choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées à qui ? Aux petits enfants. Il les a révélées aux prophètes ? Oui, peut-être il en a révélé une partie. Mais là, c'est écrit, il les a révélées aux petits enfants. Alors, est-ce que, comme disait, zut, le nom m'échappe, mais on va vous allez m'aider. Comme disait notre ami là qui était venu questionner Jésus, mais est-ce qu'il faut que je revienne à l'intérieur du cœur du ventre de ma mère? Hein, Nicodème, merci bien, j'ai eu nos problèmes avec les prénoms, hein, je vous l'avais dit. Donc est-ce qu'il faut que je revienne à l'intérieur du ventre de ma mère et que je renaisse? Non, vous allez voir, c'est une attitude de cœur. Être un enfant, c'est une attitude de cœur. C'est une attitude. Il a fait de nous ses fils et ses filles bien-aimés, des enfants d'adoption. Alors je vais vous poser une autre colle, moi. Je vais faire comme Jésus un peu. Interrogation à la fin de la soirée. Est-ce que vous savez comment vous êtes aimé par rapport à Jésus ? Pareil. Le Père vous aime pareil que Jésus. Le Père t'aime pareil que Jésus. Le Père t'aime pareil que Jésus. Pas de différence. Pourtant, on pourrait dire Jésus, il était parfait. Il a fait toute ta volonté. Il a été jusqu'au bout. Il est mort pour les autres. Il a fait tant de choses. Mais c'est écrit dans Jean 17, 23. Je t'ai aimé. Je t'aime comme j'ai aimé mon fils Jésus. Je t'aime, comme j'ai aimé mon fils. Wow, quelle révélation. Quand j'ai écouté cette révélation pour la première fois, je l'avais lu le verset. Je l'avais lu. Mais quand je l'ai entendu dans mon cœur, je dis, waouh, je suis un fils. Et je suis aimé pareil. Vous savez, des fois, dans les adoptions, quand il y a déjà des enfants naturels, c'est pas si évident. C'est pas si évident, hein. Il y a des fois des différences qui se créent, peut-être même involontaires. Mais là, non. Jésus, le Père ne fait pas de différence. Il t'aime pareil que son fils Jésus. Nous ne sommes plus orphelins. Nous avons un Père céleste. J'ai été orphelin pendant 40 années de mon Père. Et quand j'ai rencontré Jésus, je savais que j'étais plus orphelin de Père. J'avais rencontré quelqu'un qui avait pris cette place, mon Père céleste. Et Jésus lui dira, je suis fils de mon Père céleste. Mais il a été le fils d'une troisième personne. Jésus a accepté d'être appelé le fils spirituel de David. Fils de David. Dans Matthieu, chapitre 22, verset 41. Alors là, je vous préviens, pour ceux qui aiment les sudoku, vous avez la dose. Là, il faut bien réfléchir sur le texte. Je vais essayer de le décortiquer. Si j'y arrive pas, c'est pas grave, vous le reprenez à la maison et vous le lirez. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea. Petit col pour eux. En passant, en disant, il dira, que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils? Et ils lui répondirent, de David. Donc ils avaient une bonne révélation là déjà. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Lorsqu'il dit Seigneur, et là le mot qui est utilisé, c'est Jéhovah le Père, a dit à mon Seigneur, et là le mot qui est utilisé, c'est Adon le Fils, donc le Père parle au Fils, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Question à 10 000 euros pour question pour un champion, prêt en appui. Vous savez déjà la réponse. C'est que David, lui, reconnaissait déjà dans sa prière le Père et le Fils. Mais le Fils a accepté d'être appelé fils de David des années plus tard et même dans sa parole avant. Voyez que l'âge du père spirituel n'a pas d'importance. L'âge du père du spirituel n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est qu'il communique quelque chose au fils. Et Jésus a accepté d'être appelé le fils de David. Il y a une imitation du père spirituel. On a lu tout à l'heure, on a dit tout à l'heure qu'au moment où on a accepté Jésus dans notre vie, l'ADN du Père Céleste est venu en nous. Mais de la même manière, il y a l'ADN, quelque chose de particulier, qui vient du Père spirituel et qui descend en nous. Je vais vous dire, j'ai vu souvent des fils spirituels de gauche et de droite, et ils avaient la même expression que le prédicateur que je connaissais qui était à l'origine. Ils avaient les mêmes fibres qui étaient là. Il y avait des choses qui descendaient. De la même manière que mes enfants me ressemblent, que vos enfants vous ressemblent, de la même manière, il y a une communication qui vient directement de la part du père spirituel vers son fils ou sa fille. Le père spirituel se reproduit dans le fils et dans la fille à l'image du père physique terrestre. L'ADN spirituel lui est transmis. Regardez, David a été roi, Jésus a été roi. David est celui qui est loin de Dieu, Christ aussi. Les frères de David n'ont pas reconnu sa royauté, Christ aussi. Il a eu des frères, hein, vous savez ça. Le roi qui régnait au temps de David a voulu tuer David, qui a dû fuir hors du pays, un pays ennemi de toujours, Christ aussi. David a été prophète, Jésus a été prophète. David a été victorieux sur l'ennemi, sur les puissances de l'ennemi de l'époque. Jésus a été victorieux sur toute la puissance de l'ennemi. David a été un adorateur. Jésus aussi. Regardez le fameux passage de la Samaritaine. Il dira, la véritable adoration, c'est l'adoration du Père. Jean 4, 23, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. David a préparé ce qui était nécessaire pour que le temple soit construit et édifié. Mais cela ne pouvait être fait qu'après sa mort. Jésus a donné tout ce qui était nécessaire pour que nous devenions nous-mêmes le temple en esprit, par le Saint-Esprit, au travers de sa mort. Il n'y a pas une relation là entre les deux? Malgré les imperfections de David, David était-il parfait? Non. Malgré les imperfections de David, Jésus qui lui était parfait, donc entre guillemets meilleur que David dans ses résultats, a accepté d'être appelé le fils de David. Et ça demande une attitude à l'intérieur de son cœur. Quand j'ai retrouvé mon père, j'ai accepté d'être appelé le fils de mon père. Pourtant, il n'est pas parfait. C'est pas forcément celui que j'aurais imaginé ou celui que j'aurais voulu. Peu importe, c'est mon père. J'ai accepté, j'ai une attitude de cœur. J'ai une attitude de fils envers lui. Jésus avait cette attitude. Il était fils. Le père amène au fils, le fils amène au père et le fait connaître. Il y a quelque chose d'important là. Le fils amène au père. Si je n'ai pas cette attitude de fils, que je suis un serviteur du Seigneur, si je suis juste un gars qui se force à faire les choses. Je suis donc esclave de la parole de Dieu. Si je suis esclave, je ramène à qui? Je ramène au maître. Il n'y a qu'à, il faut que. Mais si je suis fils, je ramène au Père. Comme Jésus fait. De la même manière. Il y a une révélation dont le monde a besoin. C'est la révélation du Père. Mais cette révélation, elle est accessible que par le Fils. Parce que c'est le Fils qui dit, nul ne vient au Père que par moi. Et le monde chrétien a besoin de redevenir des fils avec des cœurs de fils. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas victorieux. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas l'armée en marche. Ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut dire tout simplement que dans notre attitude, nous sommes tellement en communion avec lui que nous faisons ce que nous lui voyons faire, que nous agissons comme ça. On ne cherche pas à être indépendant pour montrer que je suis le prédicateur, pour montrer que je suis le meilleur, pour montrer que je suis un prophète, un, ce que vous voulez, un évangéliste, ce que vous voulez. Non, j'ai plus besoin de ça. Je suis dans la communion avec le Père parce que je suis fils. Je peux me blottir en lui. Je peux me cacher en lui. Mon identité ne changera pas. Quoi qu'ils fassent, mes enfants, quoi qu'ils fassent, ils seront toujours mes fils. Toujours. Alléluia. Et de la même manière. Donc du coup, je n'ai pas besoin de faire quelque chose pour être fils. J'ai pas besoin d'être un prophète, de quelqu'un qui parle, qui a de l'onction, quelqu'un qui fait ci, qui fait ça pour être son fils. J'ai plus besoin de ça, c'est plus mon combat. Mon combat, c'est d'être en relation avec lui et de faire ce que lui me demande de faire. C'est ça mon combat. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Il faut qu'il croisse en moi et que moi je diminue. Il faut que cette volonté, cette nature qui est là, cette attitude de cœur qui est là, puisse grandir en nous. Je suis un fils du Père. Alléluia! Voyez-vous, dans une étude du monde, ceux qui n'ont pas de père, ou un père absent, un père violent ou sans affection, ou sans relation, et je pense que Karim ne nous démentira pas de ça, commettent 9 fois plus de suicides, 20 fois plus de vols que les autres enfants, tombent 10 fois plus souvent dans la drogue que les autres enfants, vont 20 fois plus de fois en prison que les autres enfants. Tout cela dans le monde naturel, parce que ce sont des cœurs sans père. Dans le monde, c'est l'esprit de l'orphelin qui règne. Satan règne, vous avez pour père le diable, et le diable c'est le premier des orphelins. Il a été coupé de la relation avec le père. Et cet esprit d'orphelin règne en eux. Et ils se battent pour être quelqu'un, ils se battent pour devenir quelqu'un. Ils se battent par rapport à leurs difficultés. Ils sont sans arrêt dans l'angoisse du lendemain. Un orphelin, il se demande toujours si demain il va avoir à manger, si demain quelqu'un, il va réussir à convaincre quelqu'un de lui donner à manger. Il se bat pour avoir sa position, il écrase les autres pour réussir à être quelqu'un. L'orphelin, il est comme ça. Mais le fils, il n'a pas besoin de se battre. Il sait qu'il se met à table, il aura à manger, il ouvre le frigo, il se sert. Voilà la différence. Alors dans le monde spirituel, si ça arrive dans le monde naturel, dans le monde spirituel, que pensez-vous qui se passe? Est-ce que tu as besoin de te battre? Est-ce que dans ta tête, dans ton cœur, tu as ces douleurs au fond de toi? Je les ai eues, ces douleurs, donc je sais ce que c'est. Est-ce que tu as ces douleurs au fond de toi pour être quelqu'un, pour réussir à être reconnu? Parce qu'on peut se battre aussi bien sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, c'est le même problème qui agisse. Est-ce que tu as besoin de ton piano pour être quelqu'un? Je sais que je peux parler librement parce que lui, il est libéré de ça. Mais est-ce que tu as besoin de ton piano pour être quelqu'un? Est-ce que tu as besoin de faire un exercice que les autres voient pour être quelqu'un? Ou est-ce que tu acceptes même de faire des choses que les autres ne voient pas et que ta seule rémunération, c'est d'être dans la relation avec le Père? Waouh! Mais ça, c'est l'attitude du Fils. C'est l'attitude du Fils. C'est un combat d'être un Fils. C'est un combat, ça vient pas naturellement. C'est un combat parce que nous avons pour père le diable à l'initial. Nous avons vécu pendant des années avec un combat d'être juste des esclaves de nos propres désirs et du besoin d'être reconnus. Donc c'est un combat d'avoir une attitude de cœur comme un fils, capable de reconnaître l'autre qui n'est pas parfait comme son père. Waouh! Ça, c'est bon. Et alors là, si dans le monde spirituel, on en est là, les relations sont plus des relations de famille, des relations profondes de frères, de sœurs, de pères, de filles, mais elles sont des relations de travail. Il faut absolument que je m'en sorte. Il faut absolument que les gens me reconnaissent. Et on ne peut pas les approcher, ces gens-là. Il y a des domaines de leur cœur, on ne peut pas toucher. Ils ont peur de se montrer tels qu'ils sont. Ils ne peuvent pas trouver la paix. Ils n'ont pas de lieu de repos. Jésus dira aussi, j'ai pas de lieu de repos. Mais lui, il avait un lieu de repos dans la présence du Père. Ils sont toujours en équilibre dans la peur de perdre ce qu'ils ont parce qu'ils l'ont acquis par eux-mêmes. Et souvent, ils ont honte de leurs parents et ils se détachent d'eux. Et oui, il n'est pas parfait, je ne peux pas l'accepter, il n'est pas parfait. Mon père boit, il tape, il ce que vous voulez, il n'est pas parfait. Je ne peux pas l'accepter. Oui. Mais Jésus, il a accepté ça. Jésus, il a accepté. Comment t'es, toi? Comment tu veux être? Quel est ton choix, ce soir? C'est ça, la question. Est-ce que tu as envie de l'aimer? Est-ce que tu as envie d'avoir une attitude de fils? Mais une attitude de fils qui est grande, avec la grandeur du cœur du Père. Waouh! Eh oui, ils n'ont pas appris à être des fils. Un fils peut faire des erreurs, mais il est toujours un fils. Les enfants peuvent faire n'importe quelle erreur. Je dis pas que je serai content. Mais, ils seront toujours mes enfants. Et je les aime. Combien de fois je suis allé auprès d'eux, je me suis agenouillé auprès d'eux, j'aurais demandé pardon. Pardon pour mes erreurs, moi. Et toi? Notre identité est d'être des fils, je le disais au début, toute autre identité est inférieure. Je passerai sur le fait, est-ce qu'il peut y avoir des pères spirituels, un chapitre entier, mais il y a deux façons d'être père. Il y a la bonne et il y a la mauvaise. Et les deux façons, on les retrouve dans les Corinthiens, à l'occasion. La mauvaise, c'est celle des Corinthiens décrite par Paul, c'est que les hommes se sont mis en intermédiaire entre Dieu et eux. Si Christ lui-même n'a pas voulu être l'intermédiaire entre le Père et nous, en quoi nous pouvons prendre cette place? Christ lui-même amène au Père. Hop! Papa, je te les confie. Ils ont besoin de toi, ils ont besoin de ton amour, ils ont besoin que tu sentes que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ils ont besoin que tu vois que tu es capable de faire des miracles pour eux. Ils ont besoin que tu fasses des choses encore plus grandes que ce que tu as déjà fait pour moi. Et si toi, tu te mets en intermédiaire, c'est la mauvaise méthode pour être père. Et puis, il y a la bonne dans 1 Corinthiens 4:15 qui dit « Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. » Il n'est pas un peu orgueilleux, là, Paul, de dire un truc pareil, moi je suis père de tous vous tous là. Mais non, mais il pouvait le dire au niveau spirituel des choses. 10 000 maîtres, nous avons beaucoup d'enseignants. Il y a beaucoup de gens qui viennent et qui nous disent, Yaka, il faut qu'on... C'est simple ça à dire. C'est très simple. Mais aimer. Là, c'est une autre affaire. Et vous savez, il y a une chose qui marque le monde. Qui marque le monde jusque dans la fin des temps. C'est l'amour, la trace d'amour que vous aurez laissé derrière vous. La trace d'amour que vous aurez laissé derrière vous. Ça, c'est indélébile. Indélébile. Et cet amour, il peut pas venir de nous. On peut pas être des enseignants à dire aux autres, Yaka, il faut qu'on... On n'est pas à leur place, on peut pas... On peut comprendre les choses, on sait quel est le chemin, on peut prier pour qu'ils prennent le chemin, on peut les conseiller, mais en aucun cas on peut leur imposer les choses. Combien de fois tu as pris cette parole à la place de l'autre? Eh mes frères, il n'y a qu'à faire ça. Là, le gars il dit, mais j'ai essayé, j'ai pas réussi. Là, il est cassé, quoi, pour 2 semaines, là. Bon, zéro le gars, rétamé. Laisse l'amour. Jésus, est-ce qu'il voyait, quand il voyait quelqu'un, putain, il en a vu un paquet quand même des gens. Est-ce qu'à chaque fois qu'il voyait des gens, il leur disait, mais toi, t'as mal fait les choses, là? Il leur disait, là, il était en train de les casser. Non! Non! Il avait le cœur du Père pour eux. Le Père les aime comme il m'a aimé. Il a guéri les 10 lépreux, il y en a pas, tous ne sont pas revenus. Mais il les a guéris les 10 et il les a aimés les 10 de la même manière. Voilà le cœur du Père. Il n'y a pas une âme ici, il n'y a pas une âme, il n'y a pas une âme qui est inférieure à l'autre. Il n'y a pas une âme ici qui n'a pas d'importance. Vous êtes tous importants. Tous, tous, tous. Et si jamais à un moment donné, moi ou quelqu'un d'autre vous manifeste autre chose, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Vous êtes précieux. On ne veut pas en perdre un seul. Vous êtes précieux. Et le Père et Jésus avaient compris. Il était celui qui faisait ce que le Père voulait faire et voulait accomplir. Il était en relation avec son Père. Il ne s'est pas rebellé contre son Père. Il n'a pas voulu être calife à la place du calife. Ça, c'est Satan. Mais lui, il avait compris. Il y a donc deux façons. Ceux qui se mettent comme maîtres et puis ceux qui acceptent de se communiquer, de se déverser. Paul s'est déversé dans les Corinthiens. Il a tout donné aux Corinthiens. Il a tout donné, mais lisez les Corinthiens, vous allez voir, il s'est donné à fond. Et c'est pour ça qu'il pouvait dire, il n'y a pas plusieurs pères, c'est moi qui vous ai engendré en Christ. Alléluia. Soyez mes imitateurs, dira Paul. Trop souvent, on se bat avec cette idée qui vient du monde, on ne veut pas copier, on veut être indépendant. On ne veut pas être assimilé à, on veut être original, on veut être reconnu pour nous-mêmes. On veut que quelqu'un en particulier, que nous soyons quelqu'un en particulier, on veut sortir du lot pour être différent. Pas vrai? Mais ça, c'est l'orphelin. C'est l'orphelin. Dieu nous a créés à son image. Les fils d'Adam étaient à son image. Paul dira, soyez mes imitateurs. Et on voit que l'ADN du Père s'est retransmis dans Timothée, s'est retransmis dans Tite. Lorsqu'il envoyait Timothée, il disait, mais écoutez-le, c'est moi qui parle au travers de lui. Parce qu'il savait que Timothée, je suis persuadé qu'il n'a pas pris la prédication de Paul pour faire exactement la même. Il avait son propre caractère. Et il a transmis ce qu'il avait, et il l'a transmis avec son cœur, et pour autant, c'était Timothée qui parlait, mais c'était Paul qui parlait au travers de Timothée. Il y avait l'ADN du Père qui avait été communiqué, il y avait l'onction qui a été communiquée. Timothée avait un cœur de fils, et Paul avait un cœur de père. Mais voyez-vous, on ne peut pas être père sans avoir été fils. Waouh, c'est une autre révélation, ça. Si je suis un père avant d'avoir été fils, malheur aux enfants. Paul n'a pas imposé sa paternité. Il les a invités à être des fils comme lui-même l'est aussi de Christ. Un bon père spirituel est aussi un bon fils. Oh, alléluia. Autre exemple, Josué et Moïse. Josué a été le prolongement de Moïse. Jésus a été le prolongement du père, de David. Genèse 45:8, il est même écrit que « Il, Joseph, m'a élevé au rang de père pour le Pharaon ». Pharaon, malgré sa position, avait compris quelque chose. Son autorité humaine, sa connaissance, tout ce qu'il était, il a été capable de dire qu'il acceptait d'être un fils pour Joseph. Pourtant, Pharaon était sans doute plus âgé. Le père spirituel bénit, il a une vie bénie et il bénit. C'est le rôle du père spirituel. En tant que fils, en étant fils, nous sommes alors une part de sa bénédiction et de son héritage. Nous le recevons, son héritage. Alléluia. Et Élie et Élisée, dernier exemple que je prendrai un petit peu en détail. Élisée, quand on écoute, quand il dit à Élie, écoute Élie, c'est bien, hein. Mais moi, je voudrais le double. Je veux pas un, je veux deux fois. On peut se dire en lisant ça, mais quand même, il a du culot, le mec, hein. Il est un peu gonflé, quand même, hein. Parce que quand on voit ce que Élie a fait, on se dit, mais il en demande le double. Ma, quel orgueilleux, c'est un orphelin, celui-là. C'est pas vrai. Il avait jamais rien fait d'important, il disait. Jamais on le voit avoir fait un quelconque miracle. Il avait jamais rien fait de spirituel. T'es juste porté les valises de l'autre, là. Et d'un seul coup, il demande le double de l'onction de Élie. Waouh! Bah attends, écoute, je voulais juste te rappeler ta position, là. Tes serviteurs, là, tu nettoies mes galoches, là. Tu demandes le double, attends, et gros, t'es pas un peu gonflé quand même? Et puis, on lit dans 2 Rois au chapitre 2, verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Il était Gilgal, tranquille, sympa. Joli, Gilgal. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et ils descendirent à Bethel. Voyez-vous, c'était un test pour Élisée. Et on doit bien comprendre quelque chose. Il y a une révélation là-dedans. Nous devons comprendre que les pères spirituels ne sont pas parfaits comme ils ne sont pas parfaits dans le naturel. Et ils peuvent vous demander tout simplement de les abandonner. Mais Élisée est en train de lui dire, tu resteras mon père spirituel. Je resterai avec toi. Je resterai avec toi. Je t'abandonnerai pas. Souvenez-vous de Ruth. Souvenez-vous de Ruth. Avec Noémie. Où tu iras, j'irai. On en a bavé. On a vécu des difficultés. On est au plus bas de la vague. Tu es plus rien. Moi encore, je pourrais refaire ma vie, me refaire des choses, retrouver un boulot, retrouver une situation. Je pourrais retrouver une place même de femme dans l'intérieur du pays. Alors que toi, tu n'as plus aucun espoir. Mais c'est pas grave. Ruth, elle avait cette qualité de cœur. Elle était déjà avec une qualité de cœur de fille. Et elle dit, je ne te quitterai pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Je ne t'abandonnerai pas. Pourtant, elle était en train de tout abandonner. Waouh! Ça, c'est une qualité de cœur. C'est ce qui fera toute la différence entre Élisée et le premier serviteur d'Élie. Souvenez-vous du premier serviteur d'Élie. Il a quand même vu Carmel. Il a quand même vu le feu descendre, le bœuf se consumer, les prophètes d'Akab être détruits, anéantis. On lui a demandé d'aller voir le petit nuage, là. Va voir sur la montagne, là, s'il y a un nuage qui arrive. Et hop, le serviteur, il y va, il revient, rien. Il revient, rien. Puis à un moment donné, il dit, reviens, waouh, il y a un petit nuage, grand comme la paume de la main. Puis il a vu la pluie tomber. Il a vu que la parole d'Élie était puissante et efficace. Et au moment où Élie passe dans le creux de la vague, au moment où il est vraiment dans les difficultés morales, psychologiques, spirituelles, l'oppression qui était là, à ce moment-là, Élie va lui dire, reste là, je te prie, reste là, moi je continue mon chemin. Et bien le premier serviteur l'a abandonné. C'était un serviteur, c'était pas un cœur de fils. Un fils et une fille aiment son père dans toutes les situations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Il y a des gens qui restent attachés à leur père spirituel parce que c'est dur, c'est pas grave, tout le monde t'a abandonné, c'est pas grave. Moi je suis ton fils, je t'abandonne pas. De la même manière que mes enfants seront toujours mes enfants, de la même manière je serai toujours leur père. Même dans les moments difficiles. Il y a une révélation là. Est-ce que tu es prêt à faire comme le premier serviteur, avec un esprit de serviteur, point final, où tu gagnes ta paye et tu t'en vas? Ou est-ce que tu es prêt à faire comme le deuxième serviteur, Élisée, qui lui a dit, non, non, toi tu me dis d'abandonner. Non, 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 non. Quoi que tu fasses, où tu ailles, j'irai avec toi. J'irai avec toi. Je continuerai de cirer tes pompes. Je continuerai de te servir. Parce que je t'aime, j'ai un cœur de fils pour toi. Alléluia. Où en sommes-nous? Dans 2 Rois au chapitre 2, verset 3, les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée. Et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie. Je te prie quand même, hein, c'est une demande insistante. Car l'Éternel m'envoie à Jéricho. On est allé de Gilgal à Bethel, maintenant on va à Jéricho. Pas grave, ça fait de la marche, c'est bon pour les mollets. Et il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Voyez-vous, les fils des prophètes, c'est ceux qui ont suivi la superbe école biblique 4 étoiles qui fait de vous un ministère hors pair sur la prédication. Nickel, vous savez tout sur tout, le grec, l'hébreu, le chinois, le latin, tout ce que vous voulez, le coréen, le taki-taki, tout, vous savez tout. Vous êtes prêts à partir en mission, nickel, vous êtes bons. C'est l'école, c'est la bonne école de l'époque. Ils avaient suivi l'école biblique, ils avaient été formés, travaillés dans cette onction-là. Ils avaient suivi, ils ont été enseignés, éduqués comme des prophètes. Mais cela n'en fait pas des fils. C'était pas Élisée. Ils ne pouvaient pas avoir le cœur de fils. Ils avaient été enseignés. Mais ils n'avaient pas le cœur de fils. Eh oui. Et voyez, c'est étonnant. Élisée qui a jamais rien fait de spirituel, quand les fils des prophètes viennent, ils disent, nous on a la révélation, on a tout suivi le cours sur les prophétismes. Ton maître va être enlevé au-dessus de toi. On peut te le dire, on est forts, nous. Élisée aura dit, ah ben non, je ne savais pas, dis donc. Normalement, c'est balèze, vous. Vous avez suivi une bonne école, hein. Non, non, il va leur dire quoi? Je le sais aussi. Mes enfants savent des choses de moi, de mes façons de faire, de ma façon d'être, qu'ils ont apprises en me regardant. Ils ont écouté, ils n'ont pas suivi la formation. Mais ils ont écouté et ils ont fait. Le fils apprend du père, parce qu'il est collé au père, il touche son onction, il reçoit de lui. Il ne manifeste pas, il cherche pas à être quelqu'un, il est juste fils, et il sait, il a reçu, il a reçu. Il n'a pas eu besoin des cours, il a des cours particuliers. D'ailleurs, il le dit, taisez-vous, vous, taisez-vous, ça nous concerne à nous deux, ça vous concerne pas à vous, ça nous concerne à nous deux, c'est notre intimité entre le père et le fils. C'est notre intimité. Et puis, on continue, verset 5, 6. Et là, il dit, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée. Il y avait une deuxième école à l'époque déjà. Et ils lui dirent, sais-tu que l'Éternel l'enlève d'au-dessus de ton maître? Ils avaient reçu la même révélation, c'est déjà bon signe quand même. Hein, d'au-dessus de ta tête. Et ils lui répondirent, je le sais aussi, taisez-vous. Et il lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Troisième tentative pour le faire rester. Troisième tentative pour le faire abandonner la proximité du Père. Troisième tentative. Est-ce que tu abandonnes à la première, à la deuxième ou à la troisième? Ou pas du tout? Et une nouvelle fois, il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ils poursuivirent tous deux leur chemin. Les pères ne vont pas forcément vous encourager à les suivre. Aïe, mauvaise nouvelle. Mais il doit y avoir une détermination à se connecter à eux, qui sont nos pères spirituels. Et cette détermination sera testée. De la même manière que notre détermination à être des fils du Père Céleste est testée. De la même manière que notre détermination à être des fils de nos parents physiques est testée. Est-ce qu'on les rejette comme des vieux adolescents, là, d'un seul coup, premier truc que ça va pas, hop, tap, je ne veux plus boire. Ou est-ce qu'on continue de les aimer, de les accepter, tels qu'ils sont, avec un cœur de fils et de fille. Et puis, 50 hommes d'entre les fils des prophètes, verset 7, arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Élie et Élisée, on voit la scène, hein. Élie et Élisée, puis il y a une cinquantaine des fils des prophètes, quand même, un paquet de monde, qui sont là, ils s'arrêtent à distance et ils les regardent. Et alors Élie prend son manteau, il le roule et il frappe les eaux, et puis là, les eaux se partagent. Waouh! Ça assure, man! Toi, tu sais faire des trucs de ouf! Et puis là, ils passèrent tous les deux à sec. Là, pourtant, Élie aurait pu lui dire, écoute, tu restes là, moi je passe, parce que si jamais tu passes, toi tu coules. Non, 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 il l'a pris avec lui. Il l'a pris avec lui. Et lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Ah, voilà la différence. Quel est ton héritage? Que veux-tu comme héritage? Et Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie lui dit, « Tu demandes une chose difficile. » Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Sinon, cela ne t'arrivera pas. C'est arrivé quand ils ont passé le Jourdain. Quand ils ont passé le Jourdain. Le fils et le père se reconnaissent. Ils sont les seuls à être ensemble pour pouvoir passer le Jourdain. Il y a une intimité que les autres ne pourront pas passer. Le Jourdain, c'est particulier. Et derrière le Jourdain, ce sont des choses qui concernent que le père et le fils. Le fils des prophètes, hein, les ceux qui ont été enseignés, tout ça, etc., c'est leur problème, là, c'est de l'autre côté. Il faut qu'ils fassent leur vie, il faut qu'ils trouvent un autre chemin. Mais le prophète, là, avec son fils spirituel, qui traverse tous les deux le Jourdain, ils sont ensemble. Et de l'autre côté, c'est une intimité, les autres ne peuvent pas entendre, c'est leur chambre, c'est leur jardin secret. Avant, c'est la circoncision du cœur, derrière le Jourdain, c'est le pays promis. Ils vont y aller, ils y avancent. L'impossible. Les fils des prophètes pouvaient les rejoindre à Bethel, à Jéricho, mais ils ne purent pas passer le Jourdain avec eux. Es-tu prêt à passer le Jourdain avec? À être fidèle? Le fils est fidèle. Timothée, qui aurait voulu être avec Paul? Fils spirituel de Paul. Timothée pour être le fils spirituel de Paul. Pic! Quick! Et adulte, hein, pas enfant. Circoncision. C'était utile? Non, c'est pas utile, mais bon, ça fait bien là où on va, ça t'évitera d'avoir des problèmes. Ah bon? Ah bon? Bah finalement, j'ai un truc à faire, je reviendrai. Je laisse la place à un autre. Non. Le fils spirituel, il est attaché. Il est attaché. Il a traversé le Jourdain avec. Il a traversé le Jourdain, c'est la circoncision. Là, du cœur. Oh, lui, c'était la circoncision. Pas même. Mais le symbole est le même. Le symbole est le même. Jésus a passé la croix. Et Jésus a passé la croix. Et c'est au travers de ça que nous sommes invités à devenir les fils du Père. Les fils sont invités à faire comme les pères, à mourir à eux-mêmes. Et ils suivent le Père dans la mort et la résurrection. Le Jourdain, c'est le baptême. La mort, la résurrection. Et Élie lui dit, ce que tu demandes est difficile, ça ne nous appartient pas. La bénédiction, l'onction qu'on va pouvoir déposer sur notre fils spirituel, notre fille, ne nous appartient pas. Ce que tu demandes est difficile. Je peux pas te le donner comme je te donne mon porte-monnaie, ça c'est physique. L'onction, je peux pas te la donner comme ça. Ça m'appartient pas. Mais Dieu peut le faire. Si ton cœur est un cœur de fils, Dieu peut le faire. Rappelez-vous, Dieu prit de l'esprit qui était sur Moïse pour le transmettre. Il ne va pas gâcher l'onction. Il va la transmettre à quelqu'un qui a un cœur de fils, qui est capable de la gérer, l'onction, qui est capable de la recevoir. Dieu peut le faire, et le signe qu'il va le faire pour toi, ce sera que tu me vois partir au ciel, sinon tu ne l'auras pas. Voilà ce qu'est en train de dire Élie. L'onction vient de Dieu. Puis là, faut que je prenne un cobaye. Alléluia, j'aime bien les cobayes pendant que je prêche. Puis là, ils sont en train de discuter, ils ont passé le Jourdain. Ils ont passé le Jourdain, ils sont en train de discuter. Comment ça va, mon frère? T'as bien passé une bonne semaine?
Ça va.
Impeccable, ouais, super, machin, etc. Et puis là, char d'Israël et sa cavalerie. Les chars de feu qui viennent du ciel. Qui viennent, qui les séparent. Et qui l'enlèvent. Et là, Élie voit ça. Il a jamais vu ça. Élisée, je veux dire. Il regarde ça, il n'a jamais vu ça. Il voit Élie être enlevé au ciel sur un char de feu. Il n'est même pas mort, rien, c'est magnifique. Et là, vous savez, quand c'est des moments aussi intenses que ça, c'est comme quand on tombe ou n'importe quoi. Ce qui vient, ça sort du cœur, ça sort des tripes. Ça vient de la profondeur de l'être. Élie la regarde. Élisée, il regarde. Il dit, mais mon père. Élisée a sorti ce qu'il avait pour lui. Élisée, il a pu dire, mon père, à Élie. C'était comme ça qu'il voyait Élie. Mon père, tu es arraché à moi. Pourtant je t'aime. J'ai soif de toi. Le cœur d'Élisée avait un cœur de fils. Ce n'était pas un cœur d'esclave, ni un cœur de serviteur, mais c'était un cœur de fils. Pourtant, à aucun moment donné dans la parole de Dieu, j'ai lu qu'Élie l'ait appelé son fils. À aucun moment donné. Mais il avait un cœur de fils. Voilà la différence. Et vous savez quoi? Quand Élisée a demandé le double à Élie, qu'est-ce qu'il a fait? C'est parce qu'il avait un cœur de fils. Le fils aîné avait une double portion. Il a dit, moi je suis le fils aîné. Je veux une double portion. En fait, en demandant cela à Élie, il était en train de lui dire d'une autre manière, d'une manière masquée, je veux être ton fils, je suis ton fils. Je suis ton fils. Je veux une double portion de l'onction que tu reçois. Wow. Et alors, comme il a vu, il va rentrer dans son appel. Il prend le manteau d'Élie qui était resté là. Tout le reste est parti, mais le manteau, il est resté. Qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourne et s'approche du Jourdain. Ah, c'était le test, là. Ce que t'as demandé, c'était difficile. Bon, t'as reçu ou t'as pas reçu? Prends le manteau. Frappe. Jourdain s'ouvre. Passe. Et là, vous savez quoi, de l'autre côté, il y avait qui? Il y avait les 50 fils de prophètes qui étaient restés là. Ils n'ont pas participé à la conversation, ils n'ont pas participé à l'intimité. Ils ont vu ce qui s'était passé. Voyez-vous? Et la seule chose qu'ils ont pu dire, c'est que l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. L'école, c'est bien. L'école, c'est super. Je dis pas qu'il faut pas en faire. J'en ai fait. Mais elle vous donnera pas l'héritage. Elle vous donnera pas l'héritage. Seul le fils reçoit l'héritage. Élisée n'a jamais rien fait et n'a jamais rien demandé pour lui-même. Sa demande n'était en fait que l'expression de « Je te reconnais comme père, alors bénis-moi comme un père bénit son enfant. Donne-moi ça. » Et les gens vont pas supporter que vous puissiez recevoir, entre guillemets, facilement. Parce que vu de l'extérieur, pour ceux qui avaient juste suivi la formation, ils se sont dit, il a quand même reçu hyper facilement. Mais fallait se le coltiner, Élie, tous les jours. Faut se le coltiner, papa, tous les jours. Hein? Oui, il faut. Eh oui. Faut se le coltiner, Paul, tous les jours. Timothée, il a dit, oh là! Alors oui, ils ont reçu l'onction. Oui, il y a une double onction qui est manifestée. Oui, ça paraît être reçu facilement. Mais ils ont accepté d'avoir un cœur de fils. Voilà la différence. Jésus a mis une onction? Oui! Mais il a accepté d'avoir le cœur de fils. Fils de Joseph. Fils du Père Céleste. Et fils de David. La conclusion de tout ça, c'est que les fils reçoivent une double portion. C'est bon ça. Et j'espère que vous saisissez l'importance d'avoir un cœur de fils. Parce qu'il faut avoir un cœur de fils pour avoir un père spirituel. Dieu ne va pas vous donner un père spirituel si vous n'avez pas un cœur de fils. Vous ne le verrez même pas. Vous ne le verrez même pas, vous serez encore en adolescence à l'intérieur de vos cœurs. Mais si vous voulez être fils avec un grand papa, alors Dieu va vous donner des pères spirituels. Et vous pourrez être vous-même être des pères spirituels pour d'autres personnes. Pourquoi tant de désappointements? Pourquoi tant de déceptions? Parce que le cœur de fils n'était pas encore formé. Pourquoi tant de solitude et de blessures? L'Église n'est pas une corporation. Elle est une famille de frères et de sœurs, de pères et de mères. Voyez-vous, l'onction dans l'Église, et là quelque part Dieu nous reprend, l'onction dans l'Église devrait doubler à chaque génération. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu veut des fils. La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils. L'onction ne se gagne pas charnellement par un travail, mais c'est un don du Père. À combien plus forte raison, si vous demandez à mon Père, il vous le donnera. Il vous le donnera. Avoir un Père donne la vie. Le Fils reçoit toute son Père, y compris la vie. y compris la vie. C'est la même chose dans l'esprit. Avoir un père donne une identité. Mes enfants, s'ils vont à Astrium, ils disent « je suis le fils de Catignol » ou « la fille de Catignol », ça a une idée, ça a une identité. Ils vont avoir du respect de la part de certaines personnes. Il y a une identité. Quand tu dis que tu as reçu de ton père spirituel, tu as une identité. Timothée, il arrivait, c'était le fils spirituel de Paul. Quand il arrivait, il avait une identité. Il y avait quelque chose qui passait, j'ai un cœur de fils. Je suis le fils spirituel de Paul. J'ai un cœur de fils. Bien sûr, je suis le fils spirituel, céleste. Mais j'ai un cœur de fils. Voilà, un père, ça donne une identité. On le sait, même dans le monde terrestre, physique, charnel. C'est un enfant qui a reçu une identité de son père jusqu'à 6-7 ans. Il l'oubliera jamais. Ça le marque. Et s'il ne l'a pas eu, ça lui manque. Et il tourne à l'envers. Avoir un père donne une bénédiction. Souvenez-vous de la prière de Jabez. Si tu me bénis, quand un père bénit, tu es béni. Quand ton père spirituel prend soin de toi, qu'il t'entoure, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, c'est ton père spirituel, il y a une onction sur lui et il te protège par son onction. Il n'est pas meilleur que toi, mais il te protège. Et qualité de fils, rappelez-vous, dans le fils, il y a une amour et une admiration pour le père. Jésus était admiratif de son père. Ah. D'ailleurs, Philippe le comprendra, il dira, mais conduis-nous au père, ça nous suffit. Jésus lui dira, mais ça fait 3 ans que t'es avec moi, tu n'as toujours pas vu le père. Tout ce que je fais, c'est le père qui le fait, tout ce que je dis, c'est le père qui le dit. Tu as vu le père. Il y a un désir de sa présence. Le fils a un désir de la présence du père. Moi, j'aime coller à mon père. J'aime coller là, on est bien. Élisée, hein, Élie et Élisée, ils étaient ensemble tout le temps. Ruth, Naomi, ils étaient ensemble. Elle n'a pas quitté. Elle est restée avec. Il y a une relation d'amour authentique. Ils peuvent tous dire, j'ai péché, j'ai fait des trucs, j'ai fait des bidules, j'ai fait tout ce que tu veux. À combien de frères tu peux dire ça? Mais à ton père, tu peux le dire. Moi, les enfants, ils viennent, ils me posent des questions. Je n'oserais pas les dire, moi, comme ça, devant tout le monde. Mais parce qu'on est intime. On est intime. Ils peuvent se permettre de le dire. Il y a des choses qu'ils peuvent dire. Ils protègent, je garde, je couvre, je prie. Voilà la puissance du Père, la bénédiction descend du Père. Une relation d'amour authentique. Le Fils se réjouit de faire sa propre volonté pour être connu vis-à-vis des autres. Pas de réaction. Ils ont tous suivi ou... Non! Le Fils se réjouit de faire la volonté du Père et que le Père soit connu, qu'il y ait une vraie relation avec le Père. Le Père promotionne le Fils rend gloire au Père. Voilà la vraie relation. Voilà, c'est ça l'attitude de cœur. Un cœur humble qui ne fait pas son truc. Il y a une dépendance, le Fils a une dépendance du Père. Il accepte d'imiter le Père, il l'imite d'ailleurs, naturellement, c'est son ADN qui est là, qui est communiqué en lui. Jésus a dit, hein, il a fait que ce que le Père lui a dit de dire, il a fait ce que le Père lui a communiqué. Un cœur dévoué, je veux te servir en servant les autres jusqu'à offrir ma vie. Vous savez quoi? Jésus, s'il a donné sa vie, c'est parce que le désir du Père, c'était qu'il n'y ait plus d'orphelins, de ramener l'humanité à la relation avec lui. Et quand Jésus savait cela, et Jésus a accepté de donner sa vie parce qu'il savait que c'était le seul moyen pour que l'humanité puisse tout à nouveau retrouver la relation avec le Père. C'était le seul chemin, il n'y en avait pas d'autre. S'il y avait eu un autre chemin, il l'aurait pris. Parce que donner sa vie à la croix, c'était trop. Mais il savait que c'était ça le chemin. Et par amour à la fois pour nous, et par amour à la fois pour le Père qu'il aimait tant, ce Fils qui a accepté de se donner pour lui. Il a été jusqu'à la circoncision, il a passé le Jourdain, il a tout donné. Il a tout donné. C'est ça avoir un cœur de fils. Un cœur de fils. C'est pas je me l'impose. C'est pas parce que tu vas prier, que tu vas jeûner, que tu vas faire des trucs, que tu vas faire des bidules, que tu vas t'imposer des tas de trucs, que tu auras un cœur de fils. Non! Et c'est pas pour ça que tu vas y arriver. Oui, peut-être, mais tu auras tellement forcé pour y arriver. Mais par contre, le fils, lui, il va le faire, mais ça n'a pas du tout la même attitude. C'est pas du tout la même puissance. C'est pas du tout la même onction qui va se dégager de lui. Il a l'ADN, il manifeste naturellement ce qui est en lui. Je ne choisis pas mon visage, ma forme, mes mains, ma longueur, etc. Tout ça, ça vient de mon ADN. Je l'ai reçu. Ce que tu reçois de ton père spirituel, de ton père physique céleste, ce que tu reçois, tu peux le communiquer. c'est pas difficile. Alléluia. Et vous êtes tous nés du Père. Vous avez tous reçu l'ADN du Père. Vous avez reçu son ADN en vous. Il suffit juste de le manifester. Lui laisser la place. On laisse l'esprit d'adoption rentrer. Ça va naturellement chasser l'esprit d'orphelin. Alléluia. 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 Le fils est joyeux, il est sans hypocrisie, un fils pardonne facilement. Moi, je suis toujours surpris la façon, la capacité qu'ont les enfants à pardonner leurs parents. Je suis étonné, je suis étonné. Un enfant, il vous en veut pas. Il vous en veut pas. Mais attention, vous qui êtes promis à être père spirituel, ne jouez pas avec ça. Jouez pas avec ça. Ce serait une erreur. Un fils sert, non pas comme un serviteur, hein, je vous le rappelle. Le fils amène au père, le serviteur, l'esclave, il amène au maître. Moi, je veux pas un Dieu qui soit un maître dans ma vie. Alléluia, ma femme, rappelle-le. De qui es-tu le fils? As-tu un cœur de fils? Donc, je conclue. As-tu un cœur de fils? Vous êtes tous en train de la remercier. Hein. Le frère, il avait oublié l'heure. Vous irez la voir à la fin du culte et vous la remercierez. Je suis désolé. Quand je m'emporte là-dedans. As-tu accepté toutes tes paternités dans ta vie? Où en es-tu par rapport à ça? Où en es-tu par rapport à tes parents? Où en es-tu par rapport à ton Père Céleste? Où est-ce que tu veux encore lui prouver quelque chose? Tout ce que tu as reçu est grâce. Où en es-tu de ton Père spirituel? Nous pouvons seulement aimer parce qu'il nous a aimé le premier. Je vais vous raconter une dernière histoire et je finirai par ça. C'est l'histoire d'un roi et d'une reine. C'est d'actualité, hein. On a des princes qui se sont mariés il n'y a pas longtemps. Et puis, ils reçoivent tous leurs conseillers, leurs ministres, tous les grands du royaume. Ils sont là, ils sont assis sur leur trône. Les grands du royaume arrivent, ils se prosternent devant le roi, et puis ils commencent à discuter en mettant des vous, des machins, des trucs, des bidules. Ils sont bien habillés, ils ont un appareil, ils ont un formalisme, ils doivent suivre tout ça. Et puis, au monde, plein milieu de la grande réunion du royaume, pour savoir quelle est la couleur du téléphone du roi, d'un seul coup, la porte qui est derrière, à gauche du trône, s'ouvre. Et un petit enfant passe. Et il interrompt toute la réunion. Et il s'adresse à son père. Pour lui, c'est son père. Le fils, a accès au père. Sans protocole. Les autres doivent se prosterner. Mais le fils a accès au père sans protocole. Le fils a accès au père spirituel sans protocole. Et une porte ouverte pour lui. Alléluia. Alors ne gardez pas un esprit d'orphelin. Parce qu'en gardant un esprit d'orphelin, on peut tuer un fils. Mais en étant un fils, on peut sauver des tas d'orphelins. Alléluia. Alléluia. Tu veux gérer le moment ou tu veux gérer l'instant? On va prier. Waouh. Jésus a accepté d'être appelé fils de trois personnes. Fils de son père, physique, Joseph, dont il était juste adopté, puisque Jésus a accepté d'être appelé le fils de son père céleste, et Jésus a accepté d'être appelé le fils de David. On va pas refaire la prédication, mais je crois que nous avons le choix ce soir de rechercher, de savoir si nous voulons un cœur de fils et de fille. et si nous voulons grandir là-dedans. Et peut-être ce soir, tu as des choses à régler déjà avec tes parents. Tes parents ont abusé de toi. Tu as tout fait pour être remarqué d'eux. Tu as fait des tas de choses pour être remarqué de leur part. Mais la seule chose qu'ils t'ont accordé, c'est d'être absent. Ils se sont pas intéressés à toi. Ils t'ont pas communiqué la vie. Ils t'ont renié, ils t'ont rejeté. Ils t'ont écarté de leur vie. Ils ont préféré un de tes frères, de tes sœurs. Et il y a une haine en toi, il y a une cicatrice là. L'arbre n'a pas poussé droit. Il y a un nœud qui s'est fait. Et Dieu veut te rencontrer là. Dieu veut te rencontrer là, profondément à cet endroit. Dieu veut toucher ta vie à cet endroit. Dieu veut te bénir là où tu es, dans ton besoin d'amour, dans ton besoin de relation avec lui. Dieu veut que tu puisses lui pardonner, mais pas un pardon comme on disait tout à l'heure. Un pardon, puis il reste encore quelque chose. Mais Dieu veut t'amener à pardonner. Pardonner, à te libérer. La cicatrice va rester, mais il ne restera plus les effets. Il ne restera plus les effets. Dieu veut toucher ta vie. Et puis toi, peut-être tu connais pas le Père Céleste. Tout ce que tu en as imaginé jusqu'à présent, c'était un Dieu qui était volontaire, qui disait qu'il fallait faire des tas de choses. Pas le droit à la relation avant le mariage, pas le droit ci, pas le droit ça, etc., etc. La seule vision que tu as du Père Céleste, c'est un Père fouettard, un Père qui t'oblige, un Père, entre guillemets, qui vient du catholicisme. Et Dieu veut te libérer de cette image. Il veut te montrer qu'il y a un Père parfait qui t'aime parfaitement. Si le Père physique et le Père spirituel ne seront pas parfaits, lui, il sera un Père parfait. Il veut te rencontrer dans ton besoin d'amour. Il veut te blottir dans ses bras. Le Fils te blottit dans les bras. Il n'a pas besoin de prouver son identité. Il est tranquille en tout temps. Son identité n'est pas basée sur ce qu'il est capable de faire, sur sa position familiale, sur sa position financière. Mais il est aimé. Il est aimé. Il est aimé. Dieu veut t'aimer ce soir. Le Père veut t'aimer. Et puis il y a deux appels plus particuliers encore ce soir. Si tu désires vraiment rentrer dans une attitude qui va bouleverser ta vie, c'est déjà changer pour avoir un cœur de fils et trouver ton père spirituel. Peut-être Dieu te l'a déjà montré, mais tu t'es écarté. Tu n'as pas accepté. Déjà, reçois ce cœur de fils. Le deuxième appel, c'est, on est tous appelés à ça. Parce que dans le monde naturel, un fils qui grandit, ça sert à rien. Et nous sommes tous appelés dans le monde naturel à devenir des pères et des mères. Et Dieu veut que tu deviennes un père et une mère spirituelle. Tu puisses communiquer l'onction, recevoir l'onction et communiquer l'onction. Que l'onction puisse doubler de génération en génération à l'intérieur de l'Église. Waouh! Waouh! Alléluia! Alors tous ceux qui souhaitent là vraiment recevoir quelque chose, j'aimerais qu'on puisse prendre un chant et, ou juste la musique derrière, et se laisser porter. Là. C'est un moment d'intimité. On traverse le Jourdain. Va dans sa présence. Et on se laisse toucher par lui. Je crois qu'il nous a parlé ce soir. J'arrive pas à imaginer qu'il ne nous ait pas parlé. Si à un moment donné tu le sens au fond de toi, et quelque chose ça bouge, c'est trop fort, ne le fais pas pour le faire. et tu sens au fond de toi qu'il y a quelque chose, soit un pardon, soit tu veux changer, tu veux avoir une attitude de fille. Jusqu'à présent, tu étais en rébellion. Non, tu veux changer. Jusqu'à présent, tu cherchais à faire les choses pour toi-même, tu veux changer. Ou tout simplement, tu veux grandir encore et devenir un vrai père, une vraie mère. Tu sens que ça bouge au fond de toi. À ce moment-là, je t'invite à te lever. Je t'invite à te lever. Et puis ceux qui sont déjà pères et mères dans l'église, ils le savent, ils prieront pour toi. Communiqueront cette onction. D'intimité avec lui. Je t'aime comme j'ai aimé mon fils Jésus. Je t'aime. Je veux te faire grandir. Je veux veiller sur toi. Je veux te protéger. Je veux que tu acceptes ta position de fils. Je ne cherche pas à être. Ce sont les fils qui reçoivent. Il a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Il les a communiquées aux enfants. Reçois ce soir. Si tu as besoin, lève-toi et reçois. C'est le temps de l'onction. C'est le temps de l'onction.